Dimanche, France Inter,
le 6-9 du week-end.
8h51, histoire et politique. Claude Ascolovitch, bonjour.
Bonjour Patricia.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont allés à l'usine Whirlpool cette semaine et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'une grève est au cœur du débat politique. On s'en souvient, ou peut-être vous allez nous rafraîchir la mémoire, il y a 44 ans, on parlait de l'usine LIP où les ouvriers prenaient le pouvoir.
Et c'était beaucoup plus important qu'une élection présidentielle, c'était la possibilité de la révolution. On est donc au mois d'août 1973, les ouvriers de l'horlogerie LIP organisent la première paye illégale de l'histoire.
Alors maintenant, tranquillement et tous ensemble, nous allons aller toucher notre paye.
Les ouvriers de LIP ont franchi le pas cet après-midi. Ils se sont payés eux-mêmes sur le produit de leur vente. 2 250 000 francs ont été distribués sur les 7,5 millions de recettes. Cette paie ouvrière s'est déroulée dans l'enthousiasme, mais aussi dans le calme.
Ces ouvriers avaient osé l'impensable. Qu'est-ce que c'était LIP ? C'était une vieille marque horlogère de Besançon qui avait été mal gérée, qui avait été vendue, qui allait disparaître, on connaît ça. Les ouvriers avaient pris l'usine, ils avaient pris les stocks de montres et pour se payer, pour survivre, ils les vendaient directement l'autogestion ouvrière et pour ces gens qui avaient travaillé toute leur vie, enfin une respiration.
Moi, je trouve que c'est formidable que les ouvriers, pour la première fois au monde, travaillent pour se payer, pour la lutte, pour leur garantie de l'emploi et puis perçoivent leur paye.
Et cette respiration crée un mouvement d'adhésion et de solidarité.
À l'époque, un printemps, été, automne 1973, c'est absolument énorme. Les gens viennent acheter des montres, les comités d'entreprise en commandent. Quand les CRS, parce qu'évidemment les CRS arrivent, chassent les ouvriers de l'usine, eh bien la lutte continue. Il y a un jeune homme à l'époque à Besançon, qui est un jeune militant trotskiste étudiant, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui est émerveillé, qui découvre l'autogestion, l'autonomie ouvrière. C'était sérieux ces ouvriers de LIP, hein. Ils voulaient être achetés en réalité, ils voulaient travailler, ils voulaient négocier, mais ils étaient la liberté, et Georges Segui, l'alors patron de la CGT, résumait parfaitement l'état d'esprit.
Vous avez pu, vous avez su démontrer une nouvelle fois que si les patrons n'ont jamais pu et ne pourront jamais se passer des travailleurs, les travailleurs, eux, peuvent parfaitement se passer des patrons.
Toute une époque, aujourd'hui, quand on parle d'une usine en grève ou qui risque de disparaître, on évoque la peur, on attend parfois un sauvetage miraculeux de l'État. C'est Whirlpool. À l'époque, les gens s'organisaient.
Et on a vraiment été dans une France révolutionnaire ?
On a été dans des réveils, dans des désirs d'utopie. D'ailleurs, on entendait moins la sérieuse CGT que la CFDT, très utopique à l'époque. Et son leader, Edmond Maire, évoquait le socialisme qui, évidemment, allait arriver.
Nous pouvons affirmer que la lutte qui se mène actuellement fait progresser du même pas les revendications des travailleurs de LIP et les conditions qui permettront de transformer une société capitaliste qui a fait son temps.
Le capitalisme avait fait son temps. Ces années-là, la gauche unie montait en puissance. François Mitterrand à la tête du jeune parti socialiste nous promettait un nouveau monde. Et alors, son jeune lieutenant Jean-Pierre Chevènement combattait à la télévision le droit de propriété.
Je crois que si le droit de propriété a le droit d'abuser, bien évidemment, l'affaire LIP remet en cause le droit de propriété. Car il y a un droit qui est plus fort que le droit de propriété. C'est le droit à l'emploi.
Voilà, ça c'était l'effet LIP sur le jeune Chevènement, un ferment de désordre et de contagion.
Et cette contagion, justement, elle était redoutée ?
Absolument. En face, vous aviez la droite qui gouvernait, vous aviez un Premier ministre qui s'appelait Pierre Messmer. C'est lui qui, personnellement, avait envoyé les CRS reprendre l'usine au mois d'août, et c'est lui qui, en octobre, aurait cette phrase terrible quand les ouvriers refuseraient un plan de sauvetage qui impliquait des licenciements.
LIP, c'est fini en ce qui me concerne.
Est-ce que vous pensez que les 1260 ouvriers de LIP vont néanmoins être embauchés ?
Par qui ?
Par LIP. Par le patronat de Besançon.
Je l'espère. Je l'espère pour eux. Pour eux. Parce qu'ils ne méritent pas le malheur dans lequel un certain nombre de dirigeants absolument aveugles ou emportés par la passion politique, ils ne méritent pas le malheur où on les a entraînés.
Et pourtant, les ouvriers de LIP s'obstinant, continuant à négocier, continuant à résister. En janvier 1974, le même Pierre Messmer se fâcherait contre des journalistes qui avaient osé suggérer qu'il fallait négocier.
Je dis LIP, c'est fini. Je répète que LIP, c'est fini.
Voilà, ce ton-là est inimaginable. Aujourd'hui, personne ne parlerait aussi durement à des ouvriers menacés. Pour remettre les choses dans le contexte, hein, Pierre Messmer n'était pas du tout un homme cruel, mais il voulait garantir le droit de propriété, les rapports sociaux, une hiérarchie sociale, une manière de faire, et Lip était en train de démentir tout cela. L'entreprise, finalement, allait survivre, hein, allait être reprise par un patron de gauche qui essayerait de la faire travailler, de la faire prospérer, mais quelques années plus tard, l'État couperait ses commandes pour que Lip soit réellement terminé. Il n'en reste maintenant que des nostalgies d'une époque où la classe ouvrière croyait pouvoir sortir de sa forteresse pour conquérir le monde et sa dignité.
C'était Histoire et Politique. Claude Ascolovitch, merci.